ont tout, nous on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
On fascise la gangrène, on est fini pour la gangrène.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, salut à toi qui travaille et peut-être nous écouter en cachette ou librement. Salut à toi qui a la jambe dans le plâtre et qui ne peut pas bouger de ton canapé. Salut à toi qui est peut-être alité pour d'autres raisons plus sérieuses. Salut à toi qui boycotte le monde, le foot et la musique. Salut à toi qui a trop chaud pour sortir. Salut à toi qui nous écoute ce vendredi 22 juin. Et nous sommes bien le jeudi 21 juin, mais qui dit 21 juin dit fête de la musique. Et puis en plus, il y avait du football qui a priori concernait notre belle et grande nation. Donc je me suis dit que vous deviez être 6 auditeurs et auditrices à nous écouter en direct live sur le 102.2 ou peut-être en direct sur notre site internet. Et pourtant, ça va être une émission absolument mémorable qui va rester bien évidemment dans la légende, car ce soir, je suis accompagnée par deux amis et deux camarades, qui ne font qu'un, ils sont pas quatre, ils sont bien deux, mais ils sont amis et camarades à la fois. J'ai nommé au micro vert et à la technique Jean-Yves.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Et au micro jaune, juste à ma droite.
Eh ben bon, oui, ça me fait mal ça. Bonsoir. Bonsoir Delphine.
Oui, j'étais en train de réfléchir dans la scène avec Jésus qui s'est tout à droite. Mais bon, on va oublier tout ça. Alors, nous sommes en forme et vous l'aurez compris, donc Laurent n'est pas avec moi ce soir. Je lui fait quand même malgré tout un coucou, même si je sais très sincèrement qu'il ne nous écoute pas, il faut bien les dire, il ne nous écoutera pas non plus demain. Non, parce que d'habitude quand il n'est pas là, il prend quand même la peine de nous réécouter pour surveiller évidemment ce que nous avons pu dire dans ses micros, mais là ça ne sera pas le cas. Je vais faire un petit peu de délation ce soir, puisque je sais que certains et certaines d'entre vous ont l'habitude de Radio Canu et savent que Laurent est aussi un animateur musical, puisque vous pouvez le retrouver d'habitude le vendredi soir avec Raph aux manettes de l'émission qui dure quand même 2 heures avec du bruit dedans qui s'appelle Noise Pollution, hein, qui est pas juste pour nous dire qu'il y a du bruit, mais c'est une référence musicale, si vous ne savez pas laquelle, bah, vous irez chercher. Et puis c'est aussi une référence à sa jeunesse quand il était tout jeune et qu'il animait déjà des émissions musicales, ce qui veut dire que oui, il est un peu vieux maintenant, et je vous dis, il n'écoutera pas, donc je peux bien dire tout ce que je veux lors de cette émission. Mais donc vous l'aurez compris, il ne sera pas là non plus demain, puisque monsieur est allé secouer la tête avec les cheveux qu'il n'a pas à l'autre bout de la France avec d'autres gens qui vont faire de la noise pollution.
Mais tous des fans de Satan, si j'ai bien compris.
Oui, c'est bien, une fois dans l'année comme ça il va se rebeller en tant que vieux qu'il est. Donc on va parler de tout plein de choses ce soir, et ce sera un peu dans l'ordre qu'on voudra et un peu comme on peut, parce qu'on a chaud, qu'on a travaillé, qu'on a subi des choses difficiles avec notre patronat aujourd'hui.
Ouais.
Hein, ouais, t'es d'accord avec moi, Chab?
Je suis d'accord.
Ouais, donc on a fait ce qu'on a pu. Mais on va commencer avec deux, trois trucs un peu énervés. D'abord pour dire que moi aussi je veux une piscine. Voilà. Vous avez peut-être appris que monsieur et madame Macron veulent une piscine dans le fort de Brégançon, puisqu'il n'y a pas de piscine. Alors ils la veulent hors sol, paraît-il, puisqu'ils n'ont pas le droit de la creuser.
Ah oui, ben non, ils ne peuvent pas.
Ils n'ont pas le droit, c'est protégé.
C'est un peu une falaise aussi. Donc.
Oui, puis ils sont un peu protégés, donc ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Mais c'est intéressant parce qu'il faut se rappeler quand même que ces gens sont élu en tant que monsieur Macron, pas madame, et que dans le cadre donc de leur mandat élu dans le cadre d'une démocratie parlementaire, mais d'une démocratie tout de même, ces gens ont besoin donc d'une piscine pendant 5 ans, parce que s'il n'y a pas de piscine, ils ont un problème. Alors moi je tiens à dire que dans mon jardin que j'ai pas de piscine, mais vous allez me dire, j'ai pas de jardin. Certes, mais alors attention, si toi qui m'écoutes, tu es au bord de ta piscine, profites-en, invite tes amis et ta famille, tu as le droit, tu as la chance, d'accord. Là, ce que je critique, c'est la position de monsieur et de madame Macron, qui donc utilisent notre pognon pour pouvoir faire trempette, parce que, paraît-il, qu'il y aurait des photographes et des paparazzis et que la plage privée ne suffit pas pour protéger leur petite famille. J'ai envie de dire, pendant 5 ans, mon ami, si tu as pris ce mandat, ne va pas à la plage en bikini, c'est tout.
Et puis, quel drame. Avoir une plage privée, avoir peur d'être épié.
Voilà, c'est quand même un truc. Alors bon, voilà. Donc je veux moi aussi une piscine, puisqu'il paraît qu'on va m'enlever des sous sur des indemnités, puisque je suis une pauvre trop riche, par exemple.
Voilà.
Ou que je ne mérite pas l'argent, puisque je ne donne pas assez de...
5 euros de moins sur chaque APL pour une piscine pour les Macron.
Et voilà, c'est
un
pas
beau,
mal,
beau slogan quand même.
Hein. Je pense qu'on va pouvoir faire du nouvel autocollant là pour la rentrée. En tout cas, toujours est-il que votre pognon que vous avez peut-être quand même autour de votre piscine, en train de boire votre canon, vous pouvez quand même le dédier, l'offrir à des gens qu'on aime. C'est de l'affinitaire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, mais je vous propose de donner vos sous à Acrimed. Vous savez, de temps en temps, on reçoit dans cette émission, et ça va être le cas la semaine prochaine, donc je prends un petit peu d'avance, on recevra l'équipe lyonnaise. Donc nous recevons Acrimed 69, et là c'est Acrimed tout court qui a un très très beau site avec toujours de très belles interventions écrites, je trouve, qui a besoin de sous parce qu'Acrimed n'a pas de publicité, vend son magazine, et donc ben, comme toute organisation qui se respecte, il y a des appels. Il y a un nouveau texte qui est paru ce mercredi 20 juin, c'était donc hier, qui s'appelle Plaidoyer inquiet pour que les dons affluent, dans lequel Acrimed a de l'humour, hein, puisque rappelle qu'il y a des causes peut-être plus importantes à soutenir. Il est vrai que d'autant plus qu'il y en a beaucoup de causes à soutenir, et donc même si on ne veut pas les hiérarchiser, le problème il est qu'il faut souvent ouvrir notre porte-monnaie, et que d'autres pourraient leur dire aussi que ben, du coup il n'y a pas de pub, mais en même temps on paye nous-mêmes. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil, hein, quand même. Et moi je voudrais vous rappeler que vous pouvez soutenir Acrimed d'une manière différente que le don, c'est-à-dire que vous pouvez adhérer. Et en adhérant, bah, la cotisation, ça remplit les caisses, ça fait de la trésorerie, et qu'en plus, bah, on participe à quelque chose de bien. D'autant plus qu'Acrimed fait partie de ces sites qui sont pointés du doigt par les autres médias, qui sont attaqués. Je vais mettre leur petite affichette pour cet appel à don sur le blog de Canut Info du jeudi, parce que c'est tant qu'ils continuent, nous qu'on espérons continuer aussi, c'est plus exactement dit comme ça, mais c'est avec donc la tronche de ceux...
Des éditocrates, comme on dit.
Voilà, de ceux et celles qui participent à ces médias pourris. Et tant qu'Acrimed est en face, je vous rappelle que souvent Acrimed est attaqué par ces mêmes journalistes qui sont à la solde de certains politiques, de leurs chefs, leurs patrons de multinationales, ou simplement qui sont des gens de droite qui n'aiment pas, ou de gauche d'ailleurs, qui n'aiment pas qu'on les remette en question sur leur travail, qui n'ont de journalistes que la carte. Voilà, faut être clair. Donc moi je vous appelle à soutenir Acrimed, et si vous n'avez pas de sous, parce que vous avez le droit de pas en avoir, enfin vous avez le droit, malheureusement c'est comme ça, vous avez le droit de leur envoyer des mots aussi en disant ben je sais pas comment faire, mais nous on vous soutient, je vous lis, voilà, et puis faites circuler l'information. C'est aussi ça, mais en tout cas si vous avez de l'argent, effectivement vous pouvez faire un don, mais vous pouvez surtout adhérer. Je trouve que ça vous implique pas trop. Acrimed va pas vous demander de vous déplacer à chaque assemblée générale à Paris, donc vous inquiétez pas, mais vous avez le droit aussi d'adhérer à Lyon et de rejoindre une équipe, de les rencontrer d'abord, hein, pour savoir exactement comment tout ça fonctionne. Voilà, c'était mon appel à du pognon et du soutien en faveur de nos amis d'Acrimed. Et c'est comme ça. Donc, je propose que Fab, tu aies peut-être une envie de commencer par un sujet international.
Ouais, tiens, on va commencer. Je vais peut-être même en enchaîner deux, parce que c'est deux salopards, donc comme ça ira bien ensemble. On va commencer par Monsieur Trump. Hein. Vous avez tous vu les images d'enfants en cage suite à l'application depuis avril dernier de la politique zéro compassion pour les migrants de l'équipe Trump et de lui-même. Hein. Alors bon, évidemment, là il vient de promettre, sous la pression qu'il y a aux États-Unis, parce qu'il y a quand même des gens qui ont dénoncé ça assez de façon virulente, qu'il allait faire un décret rapidement. Le problème, c'est qu'il a toujours pas fait le décret et que donc s'applique toujours l'idée de séparer les enfants de leur famille. Alors c'est pas compliqué, les familles vont dans des prisons fédérales et les enfants vont dans des espèces d'orphelinat cages dans lesquelles on les enferme. Il faut quand même se rappeler qu'aux États-Unis depuis 20 ans, il n'existe plus d'orphelinat car en fait on estimait que c'était une maltraitance envers les enfants. Donc c'est de, vous comprenez que ça et encore plus fait réagir que chez nous où il y a encore des orphelinats. Et les parents sont donc dans les prisons fédérales. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que sera la politique qui vient ensuite, parce que si on dit on ne sépare plus les enfants, est-ce que ça veut dire qu'on va mettre les parents et les enfants dans la prison fédérale ? Bah oui, parce que après tout, c'est peut-être ce qui risque de se produire. Donc, y a un journaliste du New York Times qui signale qu'aujourd'hui, c'est la politique à la française qui a le plébiscite de l'équipe de Trump, hein. Je vous rappelle juste qu'en France, en 2017, 300 enfants ont été enfermés dans des centres de rétention administrative, c'est-à-dire des prisons. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu un CRA, il y en a un juste à côté de l'aéroport. Allez voir, c'est très intéressant. Voilà. Sans que cela n'émeuve grand monde. Donc, c'est pas con, d'après l'équipe de Trump. Autant faire comme en France, éviter les images, éviter les séparations, éviter qu'on voit tout ça. Ouvrons des grands CRA, qu'on appellera CRA plutôt qu'appeler sa prison, et mettons tout le monde dedans, toute la petite famille, comme ça tout le monde sera content. Voilà. On notera au passage que même la femme du président, qui s'appelle Melania Trump, la première dame, comme on dit, a signé une tribune avec Michelle Obama et Laura Bush, deux ex, elles aussi premières dames, pour dire c'est quand même pas terrible de séparer des enfants de ses parents quand même. Hein, vous voyez, donc on sent que ça a un petit peu brassé, parce que voilà. Alors, il y a même l'ex-président Obama qui est apparu à la télévision pour dire c'est dégueulasse et cruel de faire cela. Bon, il oublie juste de rappeler quand même que c'est les lois qu'il a votées lui qui permettent de faire ça, parce que l'équipe Trump n'a voté aucune nouvelle loi par rapport à la gestion des migrants. Donc voilà, ce serait bien qu'il arrête de se foutre de la gueule du monde lui aussi. Et j'en finirai par une sortie magnifique des patrons américains des multinationales florissantes, Tesla, Facebook, Microsoft, qui signent une tribune pour dire qu'ils ne veulent pas être complices de ces agissements et qu'ils veulent un assouplissement de la politique migratoire de Monsieur Trump. Alors eux, ils disent qu'ils font ça par pure charité. Ils oublient juste de rappeler qu'ils ont été épinglés par les syndicats américains pour avoir fait travailler des travailleurs sans papier quasiment un tiers au tiers du salaire minimum légal dans leurs entreprises, et ce, pendant plus de 25 ans. Donc voilà, vous voyez, on ne s'étonnera pas qu'ils aient envie de laisser rentrer plein de monde, mais pas pour les aider, plutôt pour les exploiter.
Mais il a une femme, mais il a une fille aussi, puisque oui. Ça a fait polémique, puisque Ivanka a expliqué à son papa que c'était mal ce qu'il faisait. Donc ça fait un peu réagir en disant, donc c'est ta fille qui fait la politique des États-Unis d'Amérique. C'est très très intéressant tout ça. Oh, bah voyons. Et puis ça a amené aussi sur les réseaux commerciaux tout un tas de blagues contre Ivanka et son papa, qui sont parfois très très drôles, parfois très méchantes, il faut le dire aussi.
Et parfois très douteuses.
Et douteuses aussi, mais faut dire qu'il est un peu douteux aussi des fois sur ses positions. Donc ça amène beaucoup de bêtises, hein, mais il est vrai que bon, donc Ivanka est donc une personnalité non élue qui dirige donc les États-Unis d'Amérique.
Mais je voulais juste, pardon, faire un petit mot sur l'activisme effectivement des gens qui sont opposés à ça. C'est hyper intéressant de voir. Il y a la ministre de l'Intérieur, je crois, c'était. Enfin, je ne sais pas si elle s'appelait comme ça exactement aux États-Unis, qui a été dégagée, enfin, que des gens, lui ont foutu la pression devant un resto en lui indiquant que c'était juste une merde politiquement. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant quand même, parce que finalement, je me suis dit, tiens, nous en France, est-ce qu'on fait ce genre d'action, quoi ? Et finalement, je trouve que c'est plutôt intéressant comme mode d'opération d'aller foutre la pression directement sur ceux qui, finalement, n'ont pas grand-chose à foutre que des gens soient séparés, que des familles, que des gamins soient tout seuls, quoi.
Mais en France, on a Marlène Schiappa qui cite Marx, donc forcément...
Ouais. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a eu ce mouvement-là qui est arrivé, mais ça faisait quand même plusieurs semaines qu'il y avait des groupes de militants et de militantes, des gens dont on ne parle jamais, et qui a fallu que les politiques arrivent pour que... Monsieur Trump et les Républicains se rendent compte qu'ils risquaient de perdre des élections, voix, et que en fait le revirement il vient que là, et que Monsieur Trump se cache derrière le fait qu'il y aura les sénateurs qui vont prendre d'autres décisions, et qu'il espère d'ailleurs que ça soit les Républicains qui prennent des décisions dures et pas lui. Donc en fait il joue encore au bonhomme, sauf qu'il change encore d'avis alors qu'il avait dit la semaine dernière qu'il changerait pas d'avis. Finalement c'est lui qui le fait, et en plus d'ailleurs il y a eu des fautes dans la déclaration, parce qu'il l'a écrit tellement vite qu'il y a eu des erreurs à l'intérieur.
Il y a des contresens dans cette
déclaration. C'est un truc de fou, c'est-à-dire que c'est quand même le pays qui se dit le plus fort militairement au monde, le plus fort économiquement et tout le bazar. Et ben même un truc comme ça écrit par le président des États-Unis d'Amérique, il y a des bêtises dedans et des grosses boulettes, donc c'est quand même assez impressionnant.
Ben après les États-Unis, je vous invite d'aller en Hongrie. Histoire qu'on, voilà, histoire qu'on voyage un peu. Voyage au pays des fachos, on aurait pu appeler ça. Alors, pas les peuples, hein, mais les dirigeants en tout cas. Alors, on connaissait les sorties de Viktor Orban hein, contre les femmes, les LGBTI, les juifs, les musulmans. Mais le problème, c'est quand on passe aux politiques et à l'application de ces déclarations, ça commence à faire très très peur. Donc, il y a eu déjà la remise en question des droits individuels, la remise en question de l'avortement, la remise en question de l'appartenance à l'Union européenne, mais surtout à la Cour européenne de justice, parce que ça l'embêtait un peu. Et là, ben, la nouvelle loi que Viktor Orban a proposée avec ses partisans, c'est une loi qui concerne les migrants, et plus exactement les ONG qui viennent en aide aux migrants. Cette loi a été votée par 160 députés sur 178. Je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il y a en ce moment en Hongrie, vu qu'en fait le Jobbik a été rejoint par les Fidesz, la formation du Premier ministre. Voilà, donc tout le monde était très très content, main dans la main, droite et extrême droite, pour voter cette loi. Comme quoi l'union de la haine, ça marche toujours. Je pense que ça va inspirer M. Wauquiez, j'ai un peu la trouille. Alors c'est une ONG. Donc en gros la loi elle dit quoi? Si une ONG est prise à aider les migrants près de la frontière hongroise, les responsables et bénévoles de l'ONG pourront désormais se voir notifier une interdiction de s'approcher à moins de 8 km de la frontière extérieure de Schengen, dont la Hongrie assume la responsabilité au nom des pays membres. L'imposition de quotas de réfugiés par l'Union européenne a par ailleurs aussi été, au passage, rendue inconstitutionnelle. De plus, l'aide aux réfugiés est rendue illégale sur le territoire hongrois en dehors des services de l'État. Les ONG ne pourront pas aider sous peine de poursuite et d'arrestation. Donc on est très clair, c'est très clair comme loi. Hein. Alors il y a Marta Pardavi, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est de l'ONG Helsinki Committee, qui est une des plus grosses ONG d'aide aux migrants en Hongrie, qui explique concrètement, c'est un nouveau chapitre dans les tentatives du gouvernement pour réduire à néant l'indépendance de la société civile et limiter l'État de droit. Cela va nous empêcher d'assister à un demandeur d'asile dans la constitution de son dossier, de rendre impossible nos missions à la frontière pour s'assurer que les droits humains, y sont respectés, ou encore interdire la distribution de brochures d'information sur les procédures d'asile. Cela nous ramène à une époque de peur jamais vue depuis la chute de la dictature communiste. Voilà. Toujours selon elle, ce nouveau texte n'est d'ailleurs pas en conformité avec le droit européen et international, ce qui est vrai parce que l'Union européenne s'est saisie du texte hein, quand même aussi. Et d'ailleurs, cet ensemble de lois s'appelle Stop Soros. Et oui, du nom de Monsieur Soros, qui était un survivant de la Shoah, qui aujourd'hui est à la tête d'un réseau de fondations qui promeuvent dans le monde les valeurs de liberté individuelle. Voilà, et donc ça est la continuité de ce qu'ils ont mis depuis 2015 en place contre M. Soros. Il y a même des affiches contre lui, il faut voir un truc. Ça pue bien l'antisémitisme aussi. Donc on pourrait se demander ce qu'en pense quand même Viktor Orban, hein, parce que voilà, le fou furieux derrière tout ça. Hein. Et ben c'est dans une interview à la radio, il faut savoir qu'il en donne au moins une par semaine. Hein. C'est le kiff des dictateurs en herbe d'occuper les médias. Il a une interview télé, une interview radio par semaine, c'est pas mal hein, quand même. Et en général, elle dure entre 2 et 4 heures. Donc,
il faut occuper voilà. Les oreilles et les yeux de tes...
Il donne son sentiment. Alors pour lui, a lieu en Europe un remplacement des populations organisé par les élites financières et économiques et que cela a lieu en partie pour que des spéculateurs comme George Soros puissent gagner beaucoup d'argent en dévastant le continent. Soros et ses gens en Europe, je le cite, hein, Soros et ses gens en Europe veulent construire une Europe multiculturelle parce qu'ils n'aiment pas la tradition de l'Europe chrétienne. Nous ne voulons pas nous mélanger à d'autres. Point. Alors, antisémitisme, complotisme, nationalisme, identitarisme, super combo quand même. Hein. Là, on sent quand même le haut niveau. Il faut quand même se souvenir que Viktor Orban, il est à son troisième mandat, qu'il a été largement réélu en avril dernier et qu'il n'a pas truqué les élections. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant, hein. Il n'y a eu aucune fraude de constater. Toute sa campagne portait sur l'influence du juif Soros. Hein, donc il a fait toute sa campagne en parlant du juif Soros dans chaque phrase quasiment. Et sur le grand remplacement en cours. Pourtant, la Hongrie n'a enregistré que 3380 demandes d'asile en 2017, hein, je vous le rappelle, 29 430 un an plus tôt du fait qu'il n'y avait pas la répartition des migrants à l'époque, donc vous voyez, c'est un peu juste ça, et la Hongrie n'a accordé l'asile qu'à 105 personnes, 105, l'année dernière. Voilà, on voit la haine de l'étranger, c'est un moteur à fantasmes qui fonctionne très bien. Et d'ailleurs, il l'avoue lui-même, donc Viktor Orban. Il a choisi le 20 juin pour ratifier sa loi en question, non pas par hasard, mais pour faire un doigt d'honneur aux Nations Unies, qui avaient fait du 20 juin la journée de sensibilisation au sort des migrants dans le monde. Voilà. D'ailleurs, le Haut-Commissariat aux réfugiés avait demandé en vain à la Hongrie de renoncer à cette nouvelle loi qui viole les droits humains. Et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le SCE, a critiqué la criminalisation d'activités absolument légitimes. Et je ne vous parle même pas des ONG sur place ou des progressistes sur place. La plupart sont soit sous le coup d'arrestation, soit en résidence surveillée du fait de l'état d'urgence instauré en Hongrie. Voilà, j'espère que ça va bien. C'est pas très loin, la Hongrie.
Alors écoute, il y a quand même d'autres nouvelles. On pourrait aller en Espagne. Vous savez qu'il y a un nouveau chef qui a pris ses fonctions. Il s'appelle Pedro Sanchez. Bon, il faut dire qu'il y a des affaires de corruption en Espagne. Ben oui, c'est bon, c'est partout. Il n'y a qu'en France où on n'arrive pas à les faire tomber. Et pourtant, il ne faut pas croire qu'en France, il n'y a pas de la corruption.
Il y en a plein.
Juste qu'on n'arrive pas à les faire tomber. Ça, c'est chez nous, c'est une maladie cachée.
Nous, on a la Cour spéciale de justice qui protège tout bien. Tout ça aussi.
Ouais, et puis il y en a qui sont même réélus alors qu'en fait, on sait qu'ils ont des affaires. Enfin bon, c'est un truc de dingue. C'est particulier chez nous quand même. Hein. Voilà. En tout cas, bon, on a donc un nouveau Premier ministre socialiste qui a fait une annonce sur le fascisme avec son arrivée. Alors, est-ce que c'est électoraliste? Est-ce que c'est
sincère?
On ne sait pas. Nous ne verrons par la suite ce que va faire Pedro. Toujours est-il que Pedro a donc annoncé qu'il allait demander à ce que les restes de Franco, dictateur hein, de 39 à 75 en Espagne, on était au 20e siècle, donc de 1939 à 1975, je parle aux plus jeunes d'entre nous, soit retiré de ce mausolée, hein, une bonne fois pour toutes. C'est un mausolée qui est près de Madrid.
Il est immense. Hein,
c'est immense. Ah ben c'était Franco qui avait prévu cette chose, donc c'était à la gloire de lui-même. Ah, il ne faut quand même pas l'oublier.
Et du fondateur du parti fasciste aussi.
Oui, puisque c'est ce que ça, j'ai perdu son nom, José Antonio Primo de Rivera, voilà, qui est un fasciste de la phalange. Hein. On dit phalange, on a presque fini le sujet. Donc l'idée de Pedro Sanchez, c'est de recréer un lieu, de créer un mémorial des victimes du fascisme à la place de ce lieu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le franquisme avait... autour de ce mausolée enterré des civils républicains et franquistes en guise de paix en Espagne. C'est-à-dire que les familles n'étaient pas au courant.
Oui, ils ont vidé les cimetières, ils ont rempli
voilà.
Là-bas.
C'était une insulte en fait à ceux et celles qui se sont battus contre le franquisme, le fascisme en Espagne. C'est-à-dire que Franco est allé au bout de la haine, enfin, en enterrant et en prenant des corps et en les mettant là, comme se dire qu'il y aurait une réconciliation. Là, l'idée de Pedro Sanchez, c'est vraiment d'avoir un lieu de réconciliation, de pouvoir aussi un lieu de mémoire et un lieu de travail. Et ça, je pense que c'est très très important parce que c'est le lieu de mémoire et de travail. Il ne s'agit pas juste de poser une stèle et puis de se dire tout va bien, nous verrons demain. Il s'agit vraiment de faire aussi le ménage. Le franquisme est encore très 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 présent en Espagne et pas que chez les vieux, parce qu'on nous montre des fois des vieux avec une vieille canne là qui tremblote. Non, il y a aussi chez les jeunes comme chez nous, bah, les vrais fachos qui ont une haine assez féroce de l'étranger, mais il n'y a pas que le racisme. Hein.
Plus de 40% des jeunes disent que le franquisme était un bien pour l'Espagne. C'est pas,
ça
pas
fait
rien,
très très peur parce qu'ils ont aussi une vision de ce que c'est la démocratie et ça c'est très dangereux. Il faut quand même se souvenir de ce qu'a été la démocratie à la mort du départ de Franco. C'était une explosion de joie, de liberté que l'Espagne a connue et qu'elle n'a jamais reconnue depuis. La Movida, c'est un truc exceptionnel. Autant au niveau social qu'au niveau culturel. Et donc aller aussi dans ce sens de redonner une mémoire aussi aux victimes, c'est très important. Et donc ça peut être intéressant que Pedro Sanchez et son équipe nouvellement arrivée puissent peut-être effectivement ouvrir une brèche là-dessus et puis dire non quelque part au fascisme. Donc on va voir. Bon, moi je me demandais un petit peu ce qu'on allait faire tout à l'heure avant cette émission des restes de Franco. J'étais très très irrespectueuse, je vous le dis, parce que je vais le dire à l'antenne, donc c'est pas la peine d'appeler pour dire que je manque de respect. Mais enfin bon, après une fois qu'on est mort, on est mort. Vous savez que dans cette émission nous sommes rationalistes. Hein. Puis de toute façon, même pour si vous croyez qu'il y a une âme, bah là, mais elle s'est barrée du corps, donc tout ça elle va bien. Je proposais le fumier, moi, mais il paraît que ça va être rendu à sa famille. Voilà. Donc je propose que nous continuions et qu'on part à Bagdad,
ouais,
en Irak.
On allait faire un petit tour à Bagdad, en Irak, où il y a une action d'affichage en faveur des droits des LGBTI qui dure depuis début juin, en fait, et qui continue encore aujourd'hui. Alors, bien entendu, hein, c'est pas le gouvernement conservateur irakien, hein, qui est à l'initiative de cet affichage. Personne, d'ailleurs, ne sait réellement qui affiche, parce que voilà, vous verrez plus tard dans le sujet qu'on a la trace du début, mais par contre, pour la suite, personne ne sait. Pourtant, dans plusieurs rues de Bagdad et sur des monuments très symboliques, comme par exemple le monument de la Victoire, qui est un des plus grands monuments de Bagdad, des drapeaux LGBT, des affiches ont commencé à fleurir depuis début juin et sont régulièrement remises depuis plusieurs jours après que les autorités, d'État ou religieuses, les aient enlevées et parfois même brûlées devant pour dire « attention, il ne faut pas mettre ça sur le mur ». Alors, on peut lire... en plus des couleurs du drapeau LGBTI, des slogans, il y en a un que je trouve très beau, « Même l'assassinat ne peut pas arrêter la marche de la vie ». Et il y en a un autre, « La différence est la base de la vie », que n'aurait d'ailleurs pas renié Bakounine. Cette action, elle n'est pas sans danger pour les personnes qui les mènent. On peut quand même rappeler que l'année dernière, on estime que plus de 120 personnes LGBTI sont mortes du fait qu'elles étaient LGBTI en Irak. Et encore, ce chiffre est sans doute minoré, car il repose sur les déclarations d'État. Et on se doute bien que ce n'est pas totalement pris en compte. Dans les médias irakiens, les LGBTI sont représentés, donc lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, hein, parce que moi je ne l'avais pas, sont présentés comme des déviants ou des malades encore aujourd'hui. Les pressions religieuses, traditionnelles et d'État sont très fortes sur les personnes LGBTI, pour qu'elles restent dans le rang et ne fassent pas honte à leur famille. C'est ce qui est le plus souvent écrit. Les extrémistes religieux en Irak accusent Irak Queer, une association de défense des droits des LGBTI en Irak, mais qui est maintenant basée en Suède, car tous les membres ont été chassés d'Irak, hein, on les a menacés de mort, il y a même eu des morts dans cette association, mais elle existait d'abord à Bagdad, d'être derrière tout cela. Au passage, ils glissent que c'est une démonstration de l'impérialisme gay et de l'envie de pervertir la terre d'islam avec les délires sodomites qui vouent à la souffrance éternelle. Voilà, décidément, la rhétorique d'extrême droite est souvent la même partout dans le monde. Voilà. Contacté par plusieurs médias, Irak Queer confirme avoir certes financé une campagne d'affichage qu'elle fait depuis 2 ans, mais c'était pour que l'affichage dure une journée afin que les gens ne prennent pas de risques et qu'il n'y avait qu'une centaine d'affiches. Donc on ne parle pas de ce qui se passe maintenant, parce que je vous le dis, c'est tous les jours, il y a des affiches qui sont collées, donc c'est un peu plus que 100 affiches. Hein. Pour le président d'Irak Queer, ce sont clairement des Bagdadis eux-mêmes qui font ce qui se passe aujourd'hui. Bagdadis, habitants de Bagdad, hein, pour les gens qui n'auraient pas compris. Et cela se voit par le côté très artisanal de certaines affiches. Il y a des photos, effectivement, c'est de la peinture, une feuille de papier, de la peinture et un slogan écrit. Donc c'est pas de l'affiche de très haut de gamme. Pour lui, la campagne ne devait pas durer dans le temps et n'être le fait que d'une association locale qui évidemment souhaite rester anonyme, hein, faut pas déconner. S'il se félicite de la durée de la campagne, son inquiétude est grande pour les personnes LGBTI en Irak. Il rappelle qu'en janvier 2017, le groupe, je vais essayer de le prononcer bien, pardon, Asaed al-Alka, un mouvement militaire islamiste chiite qui est l'un des principaux groupes de la coalition militaire qui a formé en 2014 pour combattre l'État islamique. Donc on ne parle pas de l'État islamique ou de classé terroriste par les occidentaux, hein, c'est bien des gens qui ouvertement sont du côté de l'État irakien, a publié une liste de 100 personnes accusées d'homosexualité qui ont été ensuite menacées de mort. Depuis, certains ont été tués, d'autres ont fui le pays et beaucoup sont encore portés disparus. Donc ils s'inquiètent beaucoup pour les gens qui font l'affichage. Pour mesurer à quel point les progressistes eux-mêmes sont frileux sur le sujet, je vais vous lire les propos d'Omar Al-Alouani, qui est président de l'ONG HAC, qui est l'un des rares activistes en Irak à avoir relayé les photos de la récente campagne LGBT à Bagdad, mais qui est clairement, il s'y oppose à cette initiative. Pourtant, il est classé à l'extrême gauche, hein, par le gouvernement irakien, donc je vous laisse, c'est pas un activiste, voilà. Alors il dit, j'ai relayé les photos dans un groupe d'activistes des droits de l'homme, j'ai accompagné les photos de cette question très simple, est-ce que la société est prête ? Je n'ai pas commenté davantage, car cela pourrait m'attirer des ennuis. L'organisation dans laquelle je milite ne travaille pas spécifiquement sur le dossier des LGBT, mais nous essayons de leur venir en aide quand ils nous sollicitent. Il y a quelques semaines, un homosexuel est venu nous demander de l'aide parce qu'il était harcelé et battu par des personnes dans la rue. Nous lui avons fourni du soutien psychologique et nous lui avons donné des conseils sur sa façon de s'habiller, de se coiffer, etc. Nous demandons à ces personnes d'être discrètes au possible pour préserver leur sécurité. Pour nous, la discrétion est la meilleure façon de se protéger. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec cette campagne d'affichage. Nous craignons en effet que cela réveille la haine contre cette communauté et provoque des représailles, des agressions, voire des assassinats. La haine de ces personnes est telle qu'il arrive qu'une personne accusée d'homosexualité soit tuée par sa propre famille ou sa propre tribu, surtout dans les régions rurales. Alors, quand j'ai lu ça, je suis resté un peu... je trouvais ça étrange. Et surtout, je me dis, est-ce qu'il prend les gens qui font l'affichage pour des imbéciles et qui ne sauraient pas ce qu'ils risquent ou ce qu'ils vivent ? Vous voyez, c'est un peu le truc, voilà. Parce qu'ils savent bien ce qu'ils vivent, hein, a priori. Il n'y a pas de problème. Donc, comme on le voit, c'est l'éternel, la société n'est pas prête, qui est brandie. Et si on peut comprendre les craintes, on ne peut, pour moi, qu'encourager et soutenir les gens qui risquent leur vie pour faire évoluer la société, où que ce soit. Surtout que là, on parle quand même de faire évoluer les choses à coup d'affichage, hein. C'est tout ce qu'ils font, hein. Donc moi perso, j'avais envie d'amener un soutien total à ces activistes LGBTI irakiens et à leur campagne d'affichage. Voilà. Et Delphine, où tu veux nous emmener maintenant?
À Angers.
Ah oui, Angers, bah oui.
Oui, je vais juste faire le lien pour dire que si vous savez pas quoi faire, ce samedi 25 juin à Angers, il y a une manifestation contre l'homophobie. Pourquoi ? Parce que le local LGBT d'Angers est attaqué par des taggers homophobes assez fréquemment. Donc, il y a un rassemblement qui est organisé. J'ai dit le 25, c'est le 23, mais...
C'est presque ça.
C'est presque ça. C'est à 15h, Place Lorraine. Hein, comme ça, je vous donne toutes les infos. Vous avez le droit de vous prendre... votre voiture, tout ça. Donc, il y a eu une marche des fiertés, ils avaient déjà été tagués, il et elle, le local avait été tagué. Voilà, ce qui est assez intéressant, c'est de voir les tags. Alors, il y a des appels au meurtre et au viol, c'est comme ça qu'on peut les voir au premier degré. Donc, il y a à mort les PD, nique les PD. Au deuxième degré, nous, nique les PD, je peux vous dire que ça nous fait réagir. Hein, vous avez le droit d'en rire chez vous aussi.
Oui, pas
parce
moi, ça
que,
m'a fait rire.
Bon, à part les PD, très sincèrement, on appelle au meurtre.
Oui, oui.
Il faut très clair. Et nique les PD, on appelle au viol. Puisqu'à l'agression quand même. Hein. Mais nique les PD, pour nous aussi, niquer, c'est un terme qu'on peut employer pour baiser. Vous voyez, niquer. Voilà. Donc, niquer les PD. Donc, les homophobes veulent niquer les PD. Et nous, ça nous interpelle toujours comme slogan rageur et homophobe parce qu'on se demande un peu toujours comment ça se passe. Alors, Jean-Yves, tu disais, est-ce que c'est le même.
Je pense que les homophobes sont nombreux à avoir un inconscient qui parle beaucoup plus que leur conscience. Donc, moi, je leur dis. Appelez-moi, on se voit, on fait un truc et puis ça ira mieux peut-être après. Je ne sais pas.
Partout, ça peut s'appeler aussi sinon.
C'est ça.
Donc là, c'est juste qu'on essaie de ridiculiser hein, ces homophobes parce qu'il n'y a pas d'autre solution face à de tels tags. Alors si, l'autre solution, c'est effectivement de se rassembler et d'aller manifester et de continuer à lutter et à manifester. L'autre solution, moi, je suis persuadée que les ridicules, ça peut faire tomber des gens et que les attaquer aussi par ce côté-là. Ouais. Là, je pense qu'il faut leur mettre le nez dedans, quoi. Par contre, ce que j'espère, c'est que ces gens, vous savez qu'ici, on n'aime pas mettre les gens en prison, mais par contre, ce que j'espère, c'est qu'on trouvera quand même les gens qui veulent mettre à mort des PD. Parce que là, ceux-là, ils ramassent, j'ai envie qu'ils ramassent. Souhaiter la mort des gens, c'est quand même un truc assez, ouais, en plus, on imagine bien qu'ils ont envie de les torturer avant de commettre ces meurtres, donc puis de les violer aussi. Enfin voilà, c'était, j'avais juste envie de dire ça, voilà, sur le lien avec tout ça. On pourrait presque parler du pape pour continuer un peu dans le côté facho.
Non,
tout
faut que
ça,
je retrouve ma feuille.
D'union sacrée aussi. C'est pas ça comme ça que ça s'appelle là.
Ah oui, parce que le pape il est à Genève. Ouais. Alors tous les médias ils nous disent waouh, le pape François, le petit pape réactionnaire là qu'on a.
Non, soi-disant progressiste de gauche. Non
ouais, enfin faut pas déconner non plus. Le pape François là il est, il paraît super cool et tout. Il est à Genève et tout. Il va faire une messe devant 41 000 personnes. 41 000, rendez-vous compte.
À côté, l'équipe de France.
Voilà. Voilà, donc du coup, on parle beaucoup de ça. Par contre, on parle pas de pourquoi il est à Genève. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant, personnellement, je trouve. Hein. Alors, en effet, le pape, il vient pas par hasard à Genève.
Il vient pas juste visiter Genève, quoi.
Non, non, il vient en fait parce qu'il vient le célébrer, il est invité à venir célébrer les 70 ans du Conseil œcuménique des Églises. Alors, le Conseil œcuménique des Églises, il regroupe les 350 églises, en majorité protestantes, mais aussi anglicanes et orthodoxes, sauf la partie de Moscou, la partie russe, tout en somme, sauf les catholiques. Voilà, c'est, en gros, c'était... Voilà. Pourquoi ? Bah parce que Genève, c'est l'équivalent de Rome pour les protestants. Les gens ne le savent pas, généralement, mais Genève, c'est un peu l'équivalent de Rome. C'est là-bas qu'il y a la plupart des chefs des courants protestants. Voilà, ils sont là. Et c'est là que se trouvent toutes les plus grands, moyens financiers du mouvement protestant dans le monde. Voilà. Il y en a aussi aux États-Unis, mais il y en a aussi.
Moi, je ferais des raccourcis. Il y a des banques. Enfin, bon,
oui, bon, moi, je...
Les raccourcis, je les fais.
Bon, après, les gens, ils disent, mais c'est Luther, il était là-bas, ouais. C'est par hasard. voilà. Ouais. Bon, et bien, si le pape, il est de passage, c'est pour apporter son soutien, évidemment, à l'initiative de renforcement de la chrétienté dans le monde. Parce que, voilà, qui a été lancé par ce fameux conseil œcuménique il y a quelques mois de cela. Et vous allez me dire, bah, en fait, il fait son boulot. Oui, certes. Sauf que cet appel, il est lancé. En fait, par les évangélistes en particulier, le courant protestant évangéliste, qui est, je vous le rappelle, le courant le plus extrémiste, généralement, des protestants. Et accessoirement, c'est le courant évangéliste américain, vous savez, ceux qui parlent doucement dans l'oreille de Trump. Voilà. Et ben c'est eux qui sont donc à l'extrême droite américaine, hein, plutôt, qui ont lancé ce grand mouvement de recristianisation du monde. Et en fait, le pape, il n'est pas venu pour rien. Il est venu parce que les évangélistes, ils commencent à lui bouffer des parts de marché au cateau. Hein, il est bien gentil, mais il y a un moment donné, va falloir qu'on se partage la planète. Hein, c'est un peu le Davos des croyants là-bas, vous voyez, c'est le truc. Voilà. Donc il est venu pour leur dire, ce serait cool de cesser de me piquer des parts de marché. Ouais. Mais en contrepartie, le conseil, il a dit, d'accord, on arrête de te piquer des parts de marché, mais à condition que tu alignes tes positions sur les positions du conseil œcuménique.
Mais youpi!
Eh ben youpi, tralala! Eh ben comme ça, vous avez, je pense, compris pourquoi cette secte catholique, depuis quelque temps, et son chef en particulier, nous sort des horreurs sur les familles homosexuelles qui ne seraient pas des vraies familles, sur l'avortement qui serait comparable à la Shoah, et les médecins avorteurs comparables à des nazis. Eh ben tout simplement parce qu'ils s'alignent sur la ligne du Conseil. Du Conseil œcuménique protestant, de façon à se partager le monde beaucoup plus sereinement. Voilà. Vous êtes contents, hein?
On est ravis.
J'avais rajouté un petit truc. Il y a une vidéo en ce moment d'un prêtre qui frappe un gamin, qui lui met une grande claque dans la gueule parce que le gamin, il pleure au moment où il veut le bénir. Elle est horrible, cette vidéo à voir, hein, franchement. Voilà, elle est très violente. Par exemple, moi, j'ai craint que ce ne soit que le début de ce genre de vidéo parce que c'est ce qu'on appelle un retour vers la réaction du milieu catholique.
Oui, et l'autoritarisme des gens du clergé, etc., n'est plus à démontrer. Hein.
Oui, mais voilà, vous savez pourquoi le pape est à Genève. Et où tu nous emmènes maintenant ?
Alors moi, je propose qu'on parle produit, un qui fait de l'effet et un qui en fait pas. Ouais. Nous allons commencer avec le Canada et on va parler cannabis, si vous voulez bien. Marijuana, vous faites comme vous voulez. On vous laisse libre.
Marie-Jeanne, tout ça.
Ouais, tout à fait. Alors, c'était une promesse de Monsieur Trudeau, Justin de son prénom, une promesse électorale de 2015, c'était légaliser le cannabis. Et ben ça va être fait, ça va démarrer tout ça le 17 octobre, hein, c'est le premier pays du G7 là, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps. Sinon, il y a un pays qui le fait, c'est l'Uruguay. Je vous rappelle qu'aux Pays-Bas, c'est pas légalisé. Vous avez le droit de le faire.
Mais pas dans la rue. Mais vous ne pouvez pas transporter.
C'est
non
pas
plus,
légalisé. Donc voilà. Bon, là, le Canada passe une étape. Hein, on attendait cette étape à des fins récréatives. Hein, là, la fumette, hein, c'est plus juste des fins thérapeutiques, puisqu'il y avait des fins, une utilisation possible depuis 2001 au Canada à des fins thérapeutiques. Là, on passe à la fumette. Hein, comme boire un verre de rouge, par exemple. Je vous rappelle que boire tout ça trop, c'est mauvais à la santé. La loi nous oblige à faire quelques précisions. Donc, bientôt, on devra peut-être les faire aussi sur la fumette, je sais pas. Donc, à partir du 17 octobre, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça n'a pas été si simple quand même de faire passer cette loi, vous imaginez bien. Là où il y a eu un petit peu des tensions, c'est d'abord au Sénat. Il faut croire que le sénateur préfère justement les verres de vin rouge ou le whisky qu'à la fumette du pétard. Et donc, se sont un petit peu braqués sur un certain nombre de points de cette loi. Alors, qu'est-ce que ça va permettre, hein, déjà, la nouvelle loi ? Alors, c'est les adultes selon les provinces, puisque on n'est pas adulte pareil selon les provinces au Canada. Des fois c'est 18 ans, des fois c'est 19 ans.
Ouais. C'est pas très pratique d'ailleurs pour le permis de conduire, par exemple, qui est un truc de dingue.
Voilà, bon. Donc selon la province où tu es, très cher ami, toi qui m'écoutes, tu pourras légalement acheter, consommer et cultiver une quantité de cannabis qui sera quand même limité. Hein, tu vas pas faire un champ tout seul là derrière, mais dans ton petit jardin avec côté de ta fameuse petite piscine, ou sur ton balcon si tu en as, ou dans un truc spécial dans ton salon, tu pourras faire un petit peu pousser. ou dans ton bureau, enfin là où tu veux, que tu as envie de faire pousser. Bon, il y a quand même un petit peu, alors c'est après une possession en public, c'est-à-dire dans la rue, tout ça, c'est 30 grammes par personne. Donc ça est quand même pas mal. Moi, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit...
Et 30 G par tête, il faut les fumer quand même. Hein.
Alors, je voudrais juste...
T'as le droit de transporter, mais c'est-à-dire que t'as le droit d'aller amener à des amis.
Oui, c'est ça qui est bien.
Ta production amicale.
Alors attention...
Et sans vente, je suis très sérieux sur la question.
Oui, non, mais alors, je suis également très sérieux. La Hollande était au départ un pays où tu avais aussi le droit au temps.
Oui.
Puis c'est passé à 5 grammes. Donc là aussi, je pense que... Il y a des choses qui vont encore se modifier quand même très certainement.
Alors la différence quand même, c'est que vraiment là, c'est légalisé, oui. Et qu'il va y avoir une vente possible dans des magasins qui seront autorisés ou même des ventes en ligne. Donc il va falloir certainement avoir des agréments, un petit peu comme peut-être en Californie où allez savoir. Mais
il y aurait pas quelques multinationales du tabac qui vont arriver derrière?
Alors
c'est
comme aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'on a effectivement des multinationales qui sont derrière. Il faut savoir qu'il y en a qui sont cotées en bourse. Et donc là, je vous dis pas comment vous avez des actions là-dedans, comment vous êtes déjà riche, parce que ça a explosé. Alors en 2007, le marché au Canada, pour toutes les provinces, s'est estimé à 3,7 milliards d'euros. Je vous le dis pas en dollars canadiens, ça sert à rien. Et l'idée, c'est que là, ça va prendre 20% avec l'application de cette loi, donc la libéralisation. Mais c'est aussi ça l'idée. Justin Trudeau, c'est un libéral, et oui. Donc il va amener
rentrer du fric en fait,
de la thune, oui. Hein, des taxes et tout ça. Donc là, on parle d'une manne fiscale. C'est ça, la manne fiscale. Le terme est là, de 261 millions d'euros par an à se partager entre le gouvernement fédéral et les provinces. Donc,
ça veut dire qu'ils taxent à 7% la vente de cannabis.
C'est du pognon. Voilà,
ça fait rentrer et du pognon.
Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même un petit peu des choses qui ne vont pas bien marcher. Si vous allez au Québec, il y a la résistance au Manitoba et au Nunavut, excusez-moi pour l'accent. Là, il y a un peu des réticences. Et donc, par exemple, la ministre déléguée à la santé publique, qui s'appelle Madame Charlebois, a dit au Québec, ce sera tolérance, ce sera zéro plan. C'est-à-dire que, en fait, ils ne sont pas d'accord au Québec.
Ils sont rarement d'accord, j'ai remarqué, ouais. Au Québec.
Souvent, on nous dit, ouais, c'est super, c'est francophone, tout ça. Ouais, bon, alors, si tu peux pas fumer ton pétard, autant aller parler anglais, hein, je veux dire. Bon, je plaisante, évidemment. Mais voilà, enfin, il y a des résistances, donc c'est pas si simple aussi, quand même, pour Justin Trudeau à mettre ça en place. Mais l'idée, c'est que justement, d'ici octobre, ça puisse se mettre tranquillement en place au niveau de la loi, mais c'est surtout que les entreprises ont demandé du temps à Justin Trudeau pour se mettre en place et donc être opérationnel, ce qui veut dire qu'encore une fois, le petit producteur va se voir mis de côté par des multinationales, et ça nous pose toujours, nous, un problème, quel que soit le produit d'ailleurs.
Il y a un vieux fantasme de toute façon dans ces trucs-là, chaque fois qu'on dit on va légaliser, on légalise dans un système, et de toute façon, quand on légalise dans un pays qui est capitaliste, par définition, c'est les multinationales qui se pointent en premier. Il faut arrêter de croire que parce qu'on va légaliser, les petits producteurs vont prendre le pas et tout. Parce que des fois, on lit ces trucs-là et moi, ça me fait sourire parce que je me dis non, une légalisation dans un système capitaliste, forcément, les multinationales, elles arrivent et elles prennent 90% du marché. Quoi.
Alors, c'est juste un truc. Il y a évidemment l'idée qu'on va faire rentrer du pognon. Mais il y a aussi l'idée qu'on va tuer la mafia derrière et que ça va prendre plusieurs années. Donc, ils ont même tout là-dessus fait un travail de perspective de, en combien de temps ça allait tuer le marché noir. Alors, on sait que c'est comme la cigarette, plus on taxe le produit, plus du coup on recrée du marché noir. Mais donc c'est là où le libéralisme doit trouver un juste milieu pour que le marché noir s'éteigne, tout en rentrant des taxes pour l'État et pour les provinces, hein, au Canada. Voilà, et là c'est tout le jeu des économistes et des libéraux.
Et c'est aussi beaucoup inspiré du Colorado, où les multinationales ont embauché les anciens dealers. Ils sont allés les chercher en disant, vous savez faire, vous savez vendre le produit, et ils les ont mis dans des officines, en fait, officielle, pour qu'ils fassent de la vente officielle. Et c'est comme ça que le Colorado a pu dire, on a baissé la délinquance et la vente en sous-main de 75%. Voilà. C'est tout bête, hein, ça fait bien, mais en fait, ça profite quand même aux multinationales.
Alors, on va parler d'un autre produit, celui-là qui ne marche pas, on va parler homéopathie. Vous savez que dans ce Canu Info...
Quoi, ça marche pas ?
Nous attaquons. Et d'ailleurs, nous avions fait ensemble un Canu Info consacré
à tout ça.
Je cherche à dire, je ne vais pas parler français, mais contre l'homéopathie, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire, non, ça ne marche pas, l'homéopathie, arrêtez de fantasmer sur la question, arrêtez de donner vos sous à des multinationales aussi, parce que bon, on nous parle justement que les vaccins, c'est des multinationales, mais l'homéopathie aussi. Enfin, l'émission, vous la trouvez sur Internet, elle était très très bien. On va pas revenir là-dessus, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous savez que depuis mars, il y a eu du bruit, puisque il y a eu dans le colonne du Figaro une tribune signée à l'époque par 124 professionnels de la santé, qui aujourd'hui le nombre est explosé. Et pas que par des grands pontes, hein, mais qu'il y a un nombre de gens, mais qui sont aussi des professionnels de la santé, qui ont signé cet appel, que c'est un phénomène incroyable. Alors il y a eu des réponses à cet article.
Enfin, on va voir le niveau des réponses. Hein.
Oui, il faut voir le niveau des réponses. J'y reviendrai pas dessus, mais c'était très très drôle. Ce qui est marrant, c'est de lire dans... alors on en discutait juste avant cette émission, les articles du Figaro qui, pour exemple, je les cite, ces produits sont fabriqués selon des principes farfelus hérités de la fin du XVIIIe siècle. C'est très rare d'avoir ces termes-là employés sur le site du Figaro, mais comme Fabien, tu me faisais remarquer avant cette émission, il y a un certain nombre de professionnels de la santé, de médecins libéraux, qui lisent le Figaro. Et donc, il y a aussi des professionnels dans le Figaro qui sont sur les pages santé, qui sont aussi des scientifiques et qui écrivent des papiers. En l'occurrence, pour leur rappeler que l'homéopathie, ça ne marche pas. Et donc, il y avait eu une place, une tribune donnée à ces professionnels de santé contre l'homéopathie qui a fait beaucoup de bruit. Et on attendait quand même un petit peu de savoir ce que l'Ordre des médecins allait en penser. Et on a enfin une réponse. Elle a été publiée mardi sur le site conseil-national.medecin.fr. Donc c'est le site de l'Ordre des médecins. Ça s'appelle Médecine alternative et complémentaire. C'est une mise au point du Conseil national de l'Ordre des médecins sur le cadre déontologique qui s'impose à tous. Je les cite, et je vais même vous lire un petit peu le papier. C'est très très court, hein, c'est absolument pas une conférence sur la question. C'est un peu ce que j'appellerais le cul entre deux chaises. Voilà, la position est claire et en même temps le cul est au milieu. C'est il faut le faire. Je vais lire, je vous lis donc. L'utilisation médiatique des termes de médecine alternative et complémentaire concernant notamment l'homéopathie entretient une ambiguïté qui est source de confusion et de litiges d'interprétation. Tout en respectant la liberté d'expression des opinions critiques ou divergentes de chacun dans l'espace public, magnifique, le Conseil national de l'Ordre des médecins tient à rappeler fermement, premier tiret, on appelle ça sinon le jargon bureautique, que le terme médecine implique comme préalable à toute prescription thérapeutique une démarche médicale initiale de diagnostic clinique complétée au besoin par des investigations complémentaires en faisant appel, s'il y a lieu, à des tiers compétents. La question est de savoir si du coup, quand on s'appelle médecin homéopathe...
Ça rentre dedans, en fait.
Ça rentre dedans. Ça, moi, je le lis comme ça. Mais parce que c'est un terme, c'est une phrase un peu compliquée. Hein,
une phrase à tiroir, comme on
voilà, dit. Voilà, voilà, voilà. Deuxième puce-alinéa, que tout médecin doit exercer la médecine conformément aux données acquises de la science, tant dans l'élaboration du diagnostic que dans la proposition d'un traitement. Là, ça me conforte un petit peu dans ma première idée que médecin homéopathe, peut-être ça pose problème. Que donc... Troisième petite puce alignée à tirer, que les données acquises de la science étant par essence évolutives, les controverses sur telle ou telle modalité de traitement, médicamenteux ou autre, le cul entre deux chaises, doivent conduire à une évaluation actualisée, impartiale et rigoureuse par la communauté médicale et scientifique du service médical rendu. Ça, pff, le troisième petite puce, là le cul il est tombé entre les deux chaises, si vous voulez. Ils sont perdus au fond du trou de ce qu'ils voulaient dire.
Bah, ils auraient simplement dit qu'il n'y a aucune démonstration qui a été faite pour l'instant que l'homéopathie fonctionne, vu qu'ils ont, ils se sont soumis à aucun test sérieux. Bah, ça aurait suffi, quoi. Plutôt que d'écrire une phrase tordue comme ça, mais voilà.
Donc ensuite, nous avons des paragraphes qui nous expliquent que globalement, un patient ne peut pas être soigné. Ça veut dire ça, hein, je ne vais pas vous lire les phrases, mais que ça doit être soigné d'une manière sérieuse. C'est-à-dire que l'homéopathie ne peut pas être donnée à la place d'un traitement. Mais le problème de ce genre de phrase, c'est que la plupart de ceux et celles qui vont vous prescrire de l'homéopathie vont vous dire c'est pas suffisant, hein.
Va voir le médecin.
Et puis non, hein, quand on est bien d'accord, ça soignera pas un cancer. Le problème, c'est que ça soigne pas non plus une toux, ça soigne pas non plus un rhume. Hein.
Bah, donc c'est le sucre le plus cher au kilo, hein, en fait, voilà. Au monde. Hein.
Le Conseil national rappelle toutefois le code de la santé publique relatif à la déontologie médicale interdit de présenter comme salutaire et sans danger des prises en charge ou des thérapeuties non éprouvées. Tel est le cadre déontologique qui s'impose à tous. Point. Voilà, c'est vrai. Je vous ai presque tout lu. Sans mentir, il y a deux paragraphes tout petits qui font six phrases que je ne vous ai pas lues. 5 phrases.
Ça, c'est vraiment le cul entre deux chaises.
C'est le cul entre deux chaises, et je te dis, il y a quand même une partie où moi je trouve que le cul, il est tombé entre les chaises, tellement ils se sont perdus dans leurs propos. Mais on attendait quand même une réaction de l'ordre des médecins. Il y a notre ministre de la Santé qui a dit qu'elle allait effectivement se questionner sur savoir si on continuait à rembourser l'homéopathie. C'est pas près d'arriver. Et puis surtout, savoir si on continuait à avoir des médecins homéopathes. L'idée est de savoir que tu pourrais peut-être écrire médecin généraliste, spécialité homéopathie. Bon, ce qui revient au même.
Oui, tout à fait.
Mais il y a aussi une idée, je vous rappelle que dans le texte qui avait été publié en mars, il y avait aussi une attaque contre des DU, c'est-à-dire des diplômes universitaires, d'homéopathie qui ne sont reconnus par rien au niveau national. C'est-à-dire qu'on te donne un diplôme universitaire...
Université privée en général.
De faculté de médecine, ouais. même des cours, c'est-à-dire que tu as fait UV machin, où on t'apprend l'homéopathie. Globalement, c'est un cursus à thunes, mais ce n'est pas reconnu en l'état. Et donc, ces gens, ces signataires de ces tribunaux en Figaro avaient appelé à ce qu'il n'y ait plus de médecins qui s'appellent homéopathes, à ce qu'il n'y ait plus ces diplômes universitaires qui existent, que ça soit fini, et qu'une bonne fois pour tout, on arrête de rembourser ces médicaments, surtout à l'heure où on dérembourse tout un paquet de médicaments, où tous les gens ont des mutuelles d'entreprise qui ne prennent plus en charge une partie des médicaments, parce qu'il y a la vignette bleue. Alors, avant, on appelait ça vignette bleue, vignette blanche, mais vous voyez l'idée. Des gens n'arrivent plus à se soigner. Vous allez dans n'importe quelle pharmacie, vous allez questionner. Quand les pharmaciens et pharmaciennes sont honnêtes, ils vous disent que leur... On appelle ça des patientèles, des clientèles, des patients n'arrivent plus à se soigner. Mmh. Et c'est une vraie problématique. Et à côté de ça, on continue à rembourser l'homéopathie, qui, en plus de ça, je vous rappelle, même en effet placebo, les études ne sont pas assez sérieuses pour qu'on arrive à prouver que ça fonctionne réellement.
Oui, puis si on doit rembourser les faits placebo, remboursons plutôt le chocolat, quoi.
Ouais.
Non, c'est meilleur.
Ouais. Il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si derrière nous, nous aurons le plaisir de retrouver la retransmission de Papillon ce soir, parce que je ne sais pas si Papillon se poursuit en cette fin du mois de juin. Mais on peut peut-être... Est-ce que tu as un sujet qui te tente, là ?
Oui, moi, je partirais bien en Israël. Quand
Allez,
même.
C'est parti.
Donc, en Israël, les images des morts à la frontière de Gaza, vous le savez, ont remué pas mal les milieux progressistes et les ONG et autres soutiens dans le monde, et y compris en plein cœur d'Israël, où des manifestations se sont tenues pour dénoncer cela. Alors, qu'à cela ne tienne, pour que les images n'existent pas, il suffit d'interdire de filmer. C'est tout simple comme ça. Or, c'est pas facile parce qu'en Israël, il y a une constitution qui garantit le droit à l'information et des lois qui interdisent d'interdire l'information. Donc ça devient un peu compliqué de faire ça. Et la solution, elle est venue par le moral des soldats et leur mise en danger. Il semblerait que ces chers soldats soient mis en danger quand leur visage est filmé et qu'en plus, ça les traumatise un peu beaucoup qu'on montre ce qu'ils font. Du coup, le parti Beitenu, j'arrive jamais à le dire ça, Beitenu, je crois que ça dit comme ça, équivalent en Israël de nos identitaires français, qui est dirigé par le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a déposé un projet de loi qui prévoit de condamner à 5 ans de prison des personnes qui filment, photographient ou enregistrent des soldats lors de leur service de manière à démoraliser les soldats et les civils israéliens. Cette peine peut même être doublée dans les cas où ces images et enregistrements visent à porter atteinte à la sécurité de l'État. Les mêmes peines d'emprisonnement peuvent être également prononcées, selon ce texte, aux personnes diffusant ces documents dans les médias et les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas mal comme loi. On le voit, c'est des notions quand même qui sont assez floues. Et à la grande surprise, y compris du parti en question, toute la droite israélienne soutient cette loi. Et ils s'y attendaient pas, je vous le dis franchement. Le texte a été approuvé par le gouvernement, puis voté en première lecture au Parlement, à la Knesset, par 45 votes sur 42. Contre. Et donc ça n'est pas passé de beaucoup. Du coup, comme ce n'est pas un vote franc, il lui reste plusieurs étapes législatives à passer avant d'être définitivement adopté. C'est le principe de l'aller-retour israélien, je n'ai pas tout compris, mais donc voilà. Selon les initiateurs du projet, selon l'extrême droite israélienne, des ONG locales anti-israéliennes, ainsi que des groupes liés au BDS, boycott des investissements sanctions, passent des jours et des jours aux côtés de soldats israéliens, attendent avec impatience un acte qui puisse être enregistré de manière biaisée et l'utiliser pour les dénigrer. Voilà, c'est ce qui, pour ça, qui justifie leur loi. Alors, il y a Ksenia Zveltova qui a répondu sur Twitter « Si quelqu'un se conduit correctement, il n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit. » Voilà, et bon, elle est membre de l'Union sioniste, mais qui est classée à gauche, et elle juge la loi dangereuse et antidémocratique. Pour l'Institut de la démocratie israélienne, qui, je vous le rappelle, s'est prononcé cette année une fois de plus pour abattre le mur entre Israël et la Cisjordanie et Gaza, la formulation ambiguë du projet de loi pourrait empêcher quiconque, à l'exception de l'armée, de filmer, de photographier ou d'enregistrer les soldats israéliens. dont les actes pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires devant les instances internationales. C'est-à-dire qu'en fait, on filme et on donne que ce qu'on veut donner. Le ministre de la Défense, hein, le fameux Lieberman, répond que le texte allait mettre fin aux tentatives de ceux qui soutiennent le terrorisme en vue d'humilier, de déshonorer et de nuire aux soldats israéliens. C'est beau, hein. Il y a quand même une chance, bah, c'est que la Cour suprême israélienne, en fait, elle devrait retoquer ce texte, tout simplement, parce qu'il va à l'encontre du droit à informer. Et tout le monde a saisi la Cour. Alors, exactement, il y a 83 organisations qui ont saisi la Cour suprême israélienne pour faire annuler ce texte. Voilà, pour le droit à l'information. Mais on voit que, quand même, partout, l'extrême droite a des idées de planquer tout ce qui est fait, quand même.
Alors, pour terminer, je propose de me transformer en Laurent. Et de parler d'EDF.
Il parle pas du tout comme ça. Ok, je suis d'accord. Mais je sais pas faire Laurent, en fait.
En plus, il a une voix plutôt aiguë, alors que c'est plutôt moi qui ai une voix grave dans cette émission. Alors, donc, je suis Laurent et je vais parler d'EDF.
Ah merde, il faut bien rigoler un petit peu, hein. Nous sommes le jour de la fête de la musique et on est là derrière ces micros pendant que certains et certaines sont en train de picoler à moitié ivres et d'écouter des musiques country.
Ah hein. Oh, oui, voilà. Oh, le country.
Ça parle, hein, ça parle. Femme. On souffre parfois dans le cadre du travail. Alors donc, je vais parler de DF d'une manière très sérieuse.
5,62%. L'action à 14h03 aujourd'hui, jeudi 21 juin.
Elle a pris ?
L'action, 11,845 €.
Ouh là là.
Ouh là là. Je vous rappelle que l'État détient 83,5% d'EDF.
Et on pourra faire leur piscine.
On pourra faire une piscine. Alors, ils en ont des piscines, mais il faut mieux pas s'y baigner. Pas moyen, même avec un truc pour aller faire de la plongée, l'irradiation n'est pas très bien, pas très conseillée. Bon. Tu rougis vite, on va dire, et tu meurs vite aussi. Au-delà de ça, pourquoi ça augmente tout ça ? C'est parce que le petit Nicolas, comme dirait Laurent, Hulot, il s'appelle de son nom de famille, est allé sur France Info, et que, oh oh oh, il a fait des déclarations. Alors, on peut penser que c'est un peu de sa faute. Un peu.
Beaucoup.
Beaucoup. Challenge, vous savez que des fois, je vais lire Challenge. Estime aussi que c'est la faute un peu aussi à l'agence des participations de l'État, ce qu'on appelle l'APE, qui aujourd'hui est en train un peu de se poser plein de questions. Hein. D'ailleurs, j'y reviendrai si j'ai le temps avant de partir en vacances sur tout ce que l'État veut conserver, tout ce que l'État veut virer, hein, et pour faire du pognon. Ce qui est bien avec moi, je trouve, les ventes de l'État, c'est que ça fait du pognon. Sauf que on rappelle que quand on vend un truc 1 milliard d'euros, ça part très très vite avec l'État, parce que quand on parle d'État, on parle de plusieurs milliards. Mmh. Que donc, quand on vend les biens de l'État, on vend des bijoux de famille et qu'on les dépense aussi vite. Hein, donc, en fait, c'est une fausse bonne idée. Donc là, pourquoi ça a grimpé, que l'action elle a pris une belle valorisation ? C'est parce que le petit Nicolas, il est allé à France Info et qu'il a dit des trucs du style « Une des raisons pour laquelle EDF se trouve en difficulté, c'est que notamment la filière nucléaire, pardon de le dire, nous amène dans une dérive. » Alors vous allez me dire « Mais ça, Delphine, c'est mauvais signe pourtant. » Oui, mais ça sous-entendrait qu'il y aurait de retour une scission dans les biens de EDF, c'est-à-dire qu'il y aurait la partie propre et puis la partie poubelle. Poubelle étant le nucléaire.
Qu'on laisserait à la charge de l'État, évidemment.
Ah ben oui, mais ailleurs que DF.
Bah oui.
Mais le problème, c'est que, alors quand je dis poubelle, évidemment, le nucléaire, c'est de la, pour nous, vous savez que c'est un gros problème quand même de pollution, et donc poubelle, mais c'est que surtout, c'est une poubelle financière. Hein, le nucléaire pour la France, Areva qui a changé de nom, c'est une poubelle financière. Hein, et EDF est porté vers le bas à cause de la partie nucléaire. Je vous rappelle que les EPR, c'est une catastrophe financière.
Et ça marche pas du tout.
On a beau essayer de le fourguer à tout plein de pays et d'en faire après des belles affiches avec des beaux slogans et en nous disant en gros sur les sites internet oh, on a fourgué un EPR, qu'est-ce qu'on est content. Sauf que derrière, c'est la merde. Et que c'est nous hein, qui portons quand même tout ça. Hein. Je vous ai dit, hein, 83,5% du capital est détenu par l'État. L'État, c'est nous quand même, il faut le rappeler. Enfin, même si M. Macron a pensé que c'est pas nous, en l'État, c'est nous. Donc l'idée de cette intervention de M. Hulot, c'est quand même de sous-entendre que le nucléaire, ça pue. Et que EDF, en fait, c'est bien parce qu'il y a des énergies renouvelables. Alors là, on rigole très, 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 très fort. Si Laurent était là, il agitera les bras dans tous les sens.
C'est une éolienne sur pattes.
C'est une éolienne sur pattes. Ah, ça, quand on fait parler sur du nucléaire, franchement, qu'il ne va pas nous écouter, il devient une éolienne sur pattes, il agite les bras et il se dit, franchement... voilà. Donc, M. Hulot, là, d'un seul coup, il s'est réveillé. On a perdu Jean-Yves. M. Hulot s'est réveillé écolo.
Ah.
Oui, ça lui arrive des fois.
Il fallait bien que
et
ça
que
arrive,
le nucléaire, c'est mal. Donc, bah, comme on n'arrête pas de lui demander « tu restes, tu restes pas », ils sont pas trop écolos quand même dans ton gouvernement. Et qu'à chaque fois, on lui dit « alors, mais t'es encore là, comment ça se fait ?» Du coup, là, il est allé à France Info, il a été dire « le nucléaire, c'est pas bien, EDF s'en croûte avec le nucléaire. On voit bien que le coût de l'énergie fabriquée avec du nucléaire ne cesse de monter parce que nous n'avons pas nécessairement provisionné un certain nombre de choses en même temps que le coût des énergies renouvelables est en train de dégringoler. » Alors, on rappelle en France que si on paye l'électricité pas cher, c'est parce que l'État sort le chéquier à chaque fois et que c'est pour ça qu'on paye une électricité pas chère.
En fait, c'est payé au travers de toutes les, tout le reste. Hein,
je simplifie, mais en fait, on a une électricité pas chère, alors qu'en fait, le nucléaire nous coûte extrêmement cher en France à produire. Notre électricité, c'est pas comme ça, en claquant des doigts. Hein. Au-delà du fait que ça pollue, financièrement, c'est un gouffre. Donc là, Hulot, il me fait bien marrer, le petit Nicolas.
Oui, mais quand il dit ça, en fait, il dit, si on séparait le nucléaire des énergies vertes, ça veut dire que les énergies... Enfin, ce qu'ils appellent les
renouvelables.
Renouvelables.
Il n'ose même pas dire ça vers lui.
Alors, mettons les énergies renouvelables d'un côté et le nucléaire de l'autre. Les actionnaires qui vont sur les énergies renouvelables, ils sont sur un truc où ça va rapporter un max. C'est ça l'idée, en fait, qu'il est en train de leur souffler à l'oreille.
Oui, et puis, ça appartient à l'État. L'idée, c'est quand même de faire de la thune. Donc, quand ça monte, c'est intéressant. L'État, là, se comporte comme une petite entreprise.
Comme une multinationale.
Mais le but de l'APA, de cette agence, c'est exactement de faire fructifier les biens, les bijoux de famille de l'État à nos dépens, hein, évidemment. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, il y a quand même des analystes, des traders et tout ça qui pensent qu'effectivement, c'est les déclarations de M. Hulot et le papier de Challenge. Qui a fait monter, comme quoi il n'en faut pas beaucoup hein, quand même pour qu'il y ait de la spéculation boursière, bon, qui a fait monter l'action.
Sur la spéculation, c'est que de la psychologie à deux balles. Hein,
ah bah oui, on nous dit qu'il faut savoir faire des grandes algorithmes mathématiques, tu parles. ça joue aussi beaucoup sur les peurs, hein, à chaque fois on vend, on achète tout ça, oulala, miam miam, ça va être super, ah j'ai peur, je revends. voilà, donc c'était la déclaration de petit Nicolas. Quelle heure qu'il est?
Il est 20h,
exactement. Il est 20h.
Mais il n'y a personne après nous.
Eh ben, nous allons pouvoir nous arrêter là.
Eh ben alors, oui. Arrêtons-nous là,
on est pile poil. Alors, vous avez vu comme on est doué quand même, on arrive à remplir une heure d'émission en ayant préparé tout ça quand même d'une manière assez aléatoire, il faut le dire. Hein.
C'est-à-dire 10 minutes avant l'émission à peine.
Enfin, qu'est-ce qu'il faut des professionnels. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été 6 à nous écouter. Si tu en fais partie, tu as le droit de mettre un petit mot sur le blog. Une fois que nous aurons mis tout ça en ligne, voilà, tu as
fais-nous
le droit
signe.
De.
J'étais là,
tu as le droit de continuer de plutôt, sinon, aller causer à Crimed tout court, ou à Crimed 69, parce que je pense que c'est bien bien de soutenir les associations qui attaquent les médias, qui font de la critique de médias correctement, surtout dans une période où on dit que les médias c'est de la merde, où il y a du complotisme autour, c'est bien d'avoir un groupe qui remet les choses d'aplomb tout en étant dans la critique. Il faut qu'à Crimed puisse continuer à vivre. Donc je vous disais en début d'émission, on les aura nos amis d'Acrimed la semaine prochaine, le jeudi 28 juin 2018, et puis on retrouve nos amis dimanche.
Oui.
Dans la causerie, puisque oui. Je vous rappelle que Jean-Yves et Fabien sont nos amis de la causerie du dimanche.
Et oui, et on sera là dimanche.
Promis. Avec d'autres membres de la causerie.
Ouais. Et oui, parce que c'est une plus grande équipe que.
Ah ouais.
Attends, il y a au moins 10 000 personnes.
Que j'ai bien tenté, hein. En plein milieu de cette marche des fiertés de samedi, d'inviter à venir se joindre à nous, mais bon, peut-être que c'était pas le moment pour faire de telles invitations. En tout cas, moi je vous retrouve la semaine prochaine, donc avec Laurent et avec nos amis d'Acrimed. En tout cas, nous on est là dans cette émission jusqu'à fin juillet, puisque nous aurons une émission spéciale, comme tous les ans, sur les rencontres Arles. Nous irons aux rencontres de la photographie de Arles. Nous n'irons pas faire coucou à Actes Sud. J'espère que vous avez lu Le Canard Enchaîné de cette semaine, qui moi m'a fait grand plaisir parce que ça attaque notre ministre de la culture et que c'est bien parce que non seulement elle fout rien mais en plus
elle se fait de la thune
avec son mari et qu'elle escroque bien les choses, puisque je vous rappelle qu'elle a fourgué la gestion d'Actes Sud à son mec, pour faire court, et ben oui, pendant qu'elle est ministre elle est aussi ministre du patrimoine et que en l'état elle sabote.
Oui, elle favorise un tout petit peu Actes Sud violemment.
Ah bah
oui, on peut pas dire autre chose.
Quand on respecte pas les réglementations des bâtiments de France pour sa propre entreprise, avant d'être ministre, hein, c'était. Hein. Mais qu'en même temps, aujourd'hui, on est.
On déclasse le bâtiment pour pas être accusé.
Enfin, ça, c'est un truc de fou, voilà. Et donc, si vous l'avez pas lu, lisez le Canard Enchaîné avec cet article de fond du Canard Enchaîné. Non seulement ça fait plaisir de s'attaquer à une ministre, parce qu'il y a des éléments très très probants et très précis à l'intérieur de cet article, et puis ça démontre encore une fois que cette dame ne sert à rien. Et que surtout, c'est juste une patronne.
D'ailleurs, est-ce que le gouvernement sert à quelque chose ?
Alors nous, vous le savez que...
Non.
Non.
Voilà.
Mais je vous rappelle que si... Enfin, peut-être que c'est la première fois que tu nous écoutes, toi, qui es donc alité dans ton lit. Nous sommes une sale bande d'anarchistes dans cette émission. Voilà.
Et ouais, tout est dit.
Donc c'est quoi, ouais, enfin, il y a des chansons sur les patrons et l'État et tout ça, vous irez les réécouter. En tout cas, on vous laisse, on vous souhaite une très très bonne soirée. Continuez à écouter les bandes continues avec de la musique qui sont faites, je vous rappelle, en tout amour et bénévolement par les animateurs et les animatrices de Radio Canu, et écoutez la radio tout simplement.
Et oui, et à dimanche pour nous,
ouais.
22h.
Ciao, ciao.
Salut.